Chapitre 34. Le consulat de Pompée et de Crassus expiré. Annius Milon, Plotius Ipséus et Metellus Scipion se présentèrent pour briguer le consulat. Claudius se présenta, lui, pour briguer la préture. Nous l'avons dit, la préture était la magistrature que l'on sollicitait quand on était ruiné. Un homme qui sollicitait la préture, c'était un homme qui disait à ses créanciers « Décidément, je me range. Donnez-moi votre voix et je vous paierai aux dépens de mes administrés, intérêts et capital. » On sait l'inimitié qui existait entre Milon et Claudius. Claudius comprenait une chose, c'est que sa préture serait nulle si Milon était consul. Aussi commença-t-il à saper la candidature de Milon et à soutenir celle de Scipion et d'Ipséus. Alors les scènes de meurtre et d'incendie que nous avons racontées se renouvelèrent. Ces scènes rompaient à chaque instant les comices, de sorte que l'on arriva au mois de janvier sans qu'il y eût ni consul ni prêteurs élus. Les honnêtes gens étaient pour Milon. Le peuple ? Remarquez que dans l'Antiquité, on sépare toujours le peuple des honnêtes gens. Le peuple était pour Ipséus et Scipion. Le Sénat, voyant que rien ne finissait, nomma un interroi. Cet interroi était Emilius Lepidus. Qu'était-ce qu'un interroi ? Nous allons vous le dire. Quand, par l'opposition des tribuns ou à cause d'augures défavorables, les comices sont retardés assez longtemps pour que les consuls ne se trouvent pas élus au commencement de l'année, il y a, en ce cas, ce que l'on appelle un interrègne, attendu que les consuls quittent leurs fonctions sans avoir de successeur. Le Sénat, alors, pourvoit au gouvernement en créant un interroi. L'interroi est un magistrat dont le pouvoir, égal à celui des consuls, ne peut durer que 5 jours. Il assemble les comices, les préside et remet le pouvoir aux consuls dès qu'ils sont élus. Au bout de 5 jours, si les consuls ne sont pas élus, on nomme notre interroi. Voyez Tite Live et il vous dira qu'il arriva une fois que le pouvoir consulaire demeura pendant 55 jours entre les mains de 11 interrois consécutifs. Or, le lendemain du jour où Emilius Lepidus venait d'être nommé interroi, le 13 des calendes de février, 20 janvier du calendrier moderne, Milon se rendant à Lanuvium, ville municipe dont il était dictateur, afin d'y élire un flamine, rencontra, vers la 9e heure du jour, c'est-à-dire à 3 heures de l'après-midi, Claudius qui revenait d'Aricie et qui s'était arrêté près du temple de la bonne déesse pour parler aux décurions des Ariciens. Claudius était à cheval, 30 esclaves le suivaient armés d'épées. À ses côtés était un chevalier romain, Cassidus Colla, et 2 plébéiens, 2 hommes nouveaux, 2 manants, P. Pomponius et C. Claudius, son neveu. Milon, lui, voyageait en char. Il avait, par un chemin de traverse, rejoint la Via Appia, à l'endroit à peu près où s'élève aujourd'hui le village de Genzano. Il avait suivi la Via Appia et de cette façon, il se trouvait un peu au-dessous d'Albano, croisant Claudius. Il avait avec lui sa femme Fausta et M. Tullus, son ami. Sa suite en esclave était double, au moins, de celle de Claudius. Il avait, en outre, 20 de gladiateurs et parmi eux, 2 hommes renommés pour leur force et leur adresse, Eudamus et Birria. Eudamus et Birria marchaient les derniers, formant l'arrière-garde. Ils engagèrent une rixe avec les esclaves de Claudius. Claudius, entendant du bruit, accourut. On connaît Claudius. Il s'avança menaçant sur les 2 gladiateurs. L'un d'eux lui porta un coup de lance qui lui traversa l'épaule. Claudius, grièvement blessé, tomba de cheval. Les 2 gladiateurs, ne sachant s'ils avaient bien ou mal fait, se hâtèrent de rejoindre l'escorte de Milon. Pendant ce temps, les esclaves de Claudius le portaient dans une taverne. Les 2 gladiateurs, se retournant pour s'assurer qu'ils n'étaient pas poursuivis, avaient vu dans quelle taverne on avait porté Claudius. Milon s'aperçut d'un certain trouble dans son escorte. On chuchotait, on regardait en arrière. Les uns riaient, les autres semblaient craindre. Il demanda ce qui se passait. Le chef des esclaves s'approcha alors du char qui s'était arrêté et raconta à son maître qu'un gladiateur venait de blesser grièvement Claudius, lequel avait été transporté dans une taverne. Et du doigt, il montra la taverne. Milon réfléchit un instant. Puisqu'il est blessé, dit-il, autant vaut qu'il meure. Il ne m'en arrivera point pis, au contraire. Et s'adressant au chef de ses esclaves, Fusénus, dit-il, prends 50 hommes, force la taverne et arrange-toi de façon que Claudius soit achevé dans la mêlée. Fusénus prit les 50 esclaves, partit et se mit à la recherche de Claudius. Celui-ci s'était caché, mais Fusénus chercha si bien qu'il finit par le découvrir. 10 minutes après, un cadavre gisait sur la voie appienne, la face tournée contre terre. Milon, bien entendu, ne s'était pas arrêté là pour voir l'exécution. Il avait continué son chemin, s'en rapportant parfaitement à Fusénus. On voit que celui-ci, en effet, n'avait point trahi sa confiance. Un sénateur, Sextus Tedius, revenait de la campagne à Rome. Il vit un cadavre sur la grande route, descendit de sa litière, examina le cadavre et le reconnut pour celui de Claudius. Alors il fit mettre le cadavre dans sa litière et, marchant à pied, le ramena à Rome. Claudius, exproprié des maisons de Cicéron, avait acheté à Scorus une espèce de palais sur le mont Palatin. Ce fut là que Sextus Tedius déposa le cadavre. À la première nouvelle de l'événement, Fulvie accourut. Comme tous les mauvais sujets, Claudius était adoré des femmes, et particulièrement de la sienne. Fulvie jeta les hauts cris et parut sur le seuil de la maison, s'arrachant les cheveux, se meurtrissant le visage et montrant le manteau ensanglanté. En un instant, la maison fut encombrée de gens du peuple. La mort de Claudius avait ravivé sa popularité. Tout cela se passait le soir même du meurtre. Le corps était arrivé au Palatin vers la première heure de la nuit, c'est-à-dire à 6 heures du soir. La nuit s'écoula en lamentation de la part de Fulvie et en projet de vengeance de la part des clients de Claudius. Le lendemain, au point du jour, la foule augmenta. 6 ou 8 000 hommes du peuple se pressaient autour de la maison et se pressaient si bien que 3 ou 4 personnes furent étouffées. Au milieu de cette foule étaient les 2 tribuns du peuple, Minutius Plancus et Pomponius Rufus. D'après leurs exhortations, la plèbe enleva le cadavre et le porta nu, encore chaussé, dans l'état enfin où il était, quand on le déposa sur le lit pour qu'on pût voir ses blessures. Et on le porta, disons-nous, au rostre, où Plancus et Rufus, partisans de Claudius, commencèrent par leurs déclamations à ameuter le peuple contre le meurtrier. Alors les artisans, les esclaves, à qui tant de fois Claudius avait promis la liberté, prirent le corps et le descendirent à la curie Hostilia, où ils le brûlèrent en improvisant un bûcher avec les bancs et les tables des tribunaux et du Sénat. Le bûcher fut allumé avec les cahiers des écrivains libraires. Il faisait du vent, le bûcher incendia la curie. De la curie, le feu se communiqua à cette fameuse basilique Portia que Caton avait défendue, on se le rappelle, au péril de sa vie, et qui fut entièrement brûlée. De là, les fanatiques coururent assiéger la maison de Milon et celle de l'interroi. Milon était absent. Contre lui, c'était un acte de pure et simple vengeance. Mais contre Lépidus, c'était un acte de politique. On voulait le forcer d'assembler les comices et profiter de l'irritation qui se manifestait contre Milon pour emporter d'assaut la nomination de Scipion et d'Ipséus. Mais Lépidus ne se laissa point intimider. Il ferma ses portes, rassembla ses esclaves, ses serviteurs, la garde qui lui était accordée comme interroi, se mit à leur tête et repoussa les assaillants à coups de flèche. Une douzaine resta sur le champ de bataille. Ce que voyant les autres, ils revinrent au forum, enlevèrent les faisceaux du lit libitinaire et les portèrent à la maison de Scipion et d'Ipséus, qui n'osèrent les prendre. Alors le peuple les porta à Pompée, qui, comme toujours, était retiré dans ses jardins, le saluant à grands cris des titres de consul et de dictateur. Puis ce même peuple, sachant que 8 ou 10 des siens avaient été tués et blessés par Lépidus et ses serviteurs, revint en foule assiéger la maison de l'interroi, qui fut enfin prise le 5e jour de l'interrègne. Les portes enfoncées, les furieux se répandirent dans la maison, renversant les images des ancêtres de la famille Emilia, exposées dans l'atrium, brisant le lit et les meubles de Cornelia, femme de Lépidus, et l'assiégeant lui-même dans la partie la plus reculée de sa maison, où ils l'eussent égorgé si Milon, qui, après s'être sauvé de Rome, y rentrait avec une troupe de ses partisans pour demander les comices, n'était accouru à son secours et ne l'avait dégagé. Rome était littéralement à feu et à sang. Le sang coulait dans les rues et l'incendie de la curie et de la basilique fumait encore.